vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous diffusons un enregistrement qui a été réalisé dans le cadre d'une des séances hebdomadaires organisées par l'Aclé Revival qui a lieu au DOC, 26 rue du Docteur Potin, dans le 19e arrondissement. Cet événement était intitulé Mayotte Angle Mort et avait lieu le 9 février dernier. À cette occasion, un film intitulé Malavoun Tango de Jean-Marc Lacaze a été diffusé et des membres du collectif Mayotte Angle Mort ont animé un échange suite à cette séance. Nous vous diffusons donc les prises de parole qui ont été faites à l'occasion de cet événement, accompagné de deux témoignages, l'un qui a été envoyé directement aux membres du collectif Mayotte Angle Mort et le second, issu d'un extrait du film de Jean-Marc Lacaze. On vous laisse donc écouter les membres du collectif.
Le premier objectif, bah, c'est de collecter des sous pour des personnes en galère après le passage de Chido, le cyclone. Et en particulier pour les personnes qui sont exclues de la solidarité institutionnelle. Donc je pense notamment aux personnes considérées comme étrangères en situation irrégulière. Ils sont souvent exclues des aides de la préfecture, de l'État et aussi des grandes associations. Le deuxième objectif de cet événement, de cette soirée, c'est aussi d'alimenter un débat, une discussion sur la situation politique à Mayotte, notamment parce que toutes les infos qui arrivent en métropole depuis Mayotte, elles sont filtrées, biaisées par des discours xénophobes, par les discours des collectifs xénophobes à Mayotte et le discours de la préfecture, non moins xénophobe. En fait, Mayotte a été quand même pas mal dans le radar, médiatique ces derniers temps. Mais à chaque fois, ça devient une espèce de prétexte pour attaquer le droit des personnes étrangères à Mayotte. Et donc là, on l'a vu, puisque récemment, il y a eu une nouvelle attaque sur le droit du sol à Mayotte. Voilà, et du coup, merci à Solène, à Issouf et à Mohamed d'alimenter cette discussion et de permettre un petit peu de diffuser des contre-discours politiques sur la situation à Mayotte.
Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Agathe. J'ai habité 2 ans à Mayotte entre 2019 et 2021. J'étais prof documentaliste dans un collège. Et j'ai des attaches à Mayotte très régulières parce que j'y retourne presque chaque année. Maintenant, je fais des films documentaires. Après le cyclone, après le passage de Chido, dans un premier temps, nous, notre réflexe... Pour les personnes qui étaient ici dans l'Hexagone mais qui avaient des attaches avec des gens qui étaient à Mayotte, ça a été d'abord de mettre en place une cagnotte très informelle, par lien interpersonnel, et d'envoyer le plus directement possible de l'argent aux familles qu'on connaissait. Et cette soirée, en fait, on l'organise un peu dans la continuité. Tout l'argent qu'on récolte ce soir, ça va à une asso qui s'appelle Kaja Kaona, qui est implantée dans un village, dans la commune de Tsunzu 1, qui fait partie de l'agglomération de Mamoudzou, juste au sud. Et cet asso, elle accompagne depuis des années des jeunes en situation d'isolement, sorties du système scolaire ou de formation, qui n'ont pas accès à l'emploi. Sans distinction de statut administratif. Donc l'asso accompagne tout le monde, les jeunes de 15 à 30 ans dans ces situations-là. Et après le cyclone, même si les bénévoles ont été violemment eux aussi touchés par le cyclone, ils se sont organisés très vite. Ils ont cherché les victimes, organisé de l'aide d'urgence. Et puis depuis le cyclone, ils préparent et organisent des repas pour plus de 300 familles par jour. Et ils sont en train de mettre en place des activités de maraîchage pour gagner en autonomie sur les repas. Ça tombait bien en fait que l'argent ce soir aille à cette association-là, parce que le film qu'on va vous montrer se passe aussi à Tsunzhou. Et parmi les personnes qui sont filmées dans le film, certains fréquentent très régulièrement cette association. Voilà.
En fait, notre parti pris, c'est aussi de se dire que le cyclone, on l'aborde spontanément comme une catastrophe naturelle et tout, mais en fait, c'est une catastrophe qui est politique. La catastrophe, elle est produite politiquement, déjà parce que les personnes les plus impactées, c'est celles qui sont structurellement les plus précaires. Il suffit de regarder les dégâts dans les quartiers précaires de Mamoudzou et ailleurs sur l'île, qui sont comme une mesure avec ce qui peut se passer sur de l'habitat en dur. Et par ailleurs, en fait, les personnes n'ont pas la même capacité à se reconstruire après. Et ça aussi, c'est une construction politique. Et j'ai envie de dire même que le cyclone, c'est une occasion supplémentaire pour l'État de faire le tri entre les personnes qui méritent d'être aidées, qui méritent une assistance, et celles qui sont laissées pour compte, voire qu'on laisse mourir dans beaucoup de cas.
Pour rebondir là-dessus, on avait envie de vous diffuser un témoignage assez court qui dure 5 minutes d'un ami qui habite dans un de ces quartiers qui a été détruit et qui est dans le quartier de Bandrajou à Kaweni.
Oui, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Ibrahim Abdallah. Je suis un citoyen de Kaweni. Si je me souviens bien, je pense que l'État savait. Pour le cyclone, l'État savait déjà ce qui allait se passer. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont caché, alors qu'ils savaient dès le début que le cyclone allait être meurtrier, en fait. Ça allait être un cyclone. Et depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis, dans mon quartier, on n'a reçu aucun responsable de l'État. Quand je vous dis aucun, c'est-à-dire que pas de maire, ni élu, ni préfet, ni personne. Aucun élu n'est venu nous voir pour constater les dégâts. On a déploré combien de décès dans le quartier ? Trois décès. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Personne. Dans tout cas, oui, ni il y a eu des décès. Mais chez nous, on a recensé trois décès. Des jeunes. Et une femme enceinte, au moins, fallait au moins juste même faire semblant de venir dans le quartier. Mais personne n'est venu jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'électricité. On est là, chacun se débrouille à sa façon. Tout le monde est là. On serre les coudes, on s'aide. En plus, l'arrêté qui vient de sortir aussi, qu'on n'a pas le droit d'acheter des tôles et tout ça. Au moins, on n'a pas eu, au moins, fallait nous prévenir, quoi. Que là, il y a telle loi, il y a tel décret qui sera bientôt décret par le préfet. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui vivent, qui n'ont pas d'endroit où dormir. Parce que comme vous pouvez le savoir, en fait, dans les établissements scolaires, c'était impossible parce que le préfet, aujourd'hui, veut travailler. La mairie aussi veut travailler avec ces établissements-là. Il y avait des agents de nettoyage, ils sont venus. Et tout le monde a été chassé là-bas. Aujourd'hui, il y a des familles qui se retrouvent dehors. Sans toi. Voilà. On essaye malgré tout de distribuer de la nourriture parce que je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reçu d'aide en fait venant de l'État. Les aides qu'on a reçues sont des aides venues des associations, des ONG. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien reçu de la part de la mairie, de la part du conseil départemental, de la part de l'État. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles, ils n'ont pas de toit. comme vous pouvez le constater, le matin, tu te réveilles. En fait, quand tu fais le tour de Kawini, tu vois, il y a des enfants qui traînent partout. Des jeunes de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ils errent dans les rues, en fait. Ils mendient. On est là. On survit grâce aux aides, en fait, fournies par les ONG, par les associations. Mais on dirait que l'État, il est absent. Aucun. À part la police qui fait des contrôles, à part les forces de l'ordre, à part les agents de la BAC, en fait, qui font des contrôles le soir, on les voit. Des fois, ils viennent dans le quartier. C'est un quartier, on sait que c'est un quartier de zone de non-droit. Et quand même, on est des êtres humains. Le maire, en fait, il n'a pas distingué que tel quartier j'y vais, tel quartier j'y vais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vu. Aujourd'hui, tout le monde est en colère. Il y en a, ils ont de la haine, en fait, envers la commune, avec le maire, avec tout le monde. Au moins, il fallait venir au moins dans le quartier, au moins voir les dégâts, voir ce qui s'est passé. Mais nous, c'est nous les habitants. On se débrouille, en fait, de dégager les arbres tombés et tout ça. Heureusement, ça fait 3 jours, là, on a appelé... Il y a des camions de la mairie qui sont juste venus dégager les ordures parce que ça pue beaucoup. On craignait des maladies ou des... Nous, on n'a rien. On n'a rien, je vous dis. On n'a rien. Là, c'est compliqué. Mais on n'a pas le choix. Bon, on se réveille depuis le matin. On essaye de ravitailler les camions avec des vivres, des sacs de riz, du lait, tout ça. On essaie de distribuer à la population. C'est en ce moment-là qu'on constate qu'il y a des gens, ils sont vraiment dans des situations critiques. Franchement. Il y en a, ils ont faim. La faim. Bon. C'est ce que je voulais faire, un petit résumé du 14 jusqu'à aujourd'hui. L'État est absent. Rien. On dirait que nous, surtout les zones là-bas, en haut, dans les bidonvilles là-bas, comme on les appelle, on est oublié. Alors que si je me souviens bien quand je vous le dis, que pendant les élections, le maire vient là-bas, monte là-bas avec ses agents et tout ça. Il vient là-bas en nous rassurant que nous, on est égal à tous ceux qui vivent là-bas, on est tous égaux, nous, on a les mêmes droits et tout ça. Et pourtant, c'est faux. Comme on peut le constater, c'est faux parce qu'aujourd'hui, les gens sont en colère, ils ne voient personne. Oui, cette égalité, cette liberté, cette égalité de chacun, on ne le voit pas. Bon, voilà, c'est la réalité des choses aujourd'hui. C'est ce que nous, on vit depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui, au jour le jour, c'est ça.
Donc d'abord, on a Mohamed Naban qui va nous faire un petit cadrage historique sur l'histoire de l'archipel des Comores pour restituer et éclaircir un peu tous les enjeux dont on vous parle ce soir. Mohamed, tu es professeur agrégé d'arabe retraité, franco-comorien, originaire plus précisément d'Anjouan, l'île qui est juste, qui est la plus proche de Mayotte dans l'archipel. Tu as enseigné 17 ans à Mayotte. Tu as passé pas mal de temps là-bas, avec différents séjours, dont le premier en 80 et le dernier en 2019. Et tu es auteur de plusieurs ouvrages.
D'abord, merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Et donc, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Mayotte, qui sont des contre-vérités. Et il y a une réécriture de l'histoire de Mayotte qui est commencée depuis maintenant plus de 50 ans et qui continue encore. Mayotte, déjà, il faut commencer à le situer géographiquement. Si vous voyez le continent africain, à droite, c'est-à-dire à l'est du continent africain, il y a une grande île, c'est Madagascar. Et entre le continent et Madagascar, c'est ça le canal de Mozambique. Et il y a 4 îles qui sont là. Grande Comore, on dit Ngazija en comorien. Anjouan, on dit Nzouani. Mayotte, Maore. Et Moeli, Moali. Ce sont ces 4 îles, l'archipel, qui forment l'archipel des Comores. Dans la réécriture, alors je vais inventer un terme, je ne sais pas si peut-être que je l'invente ou peut-être que ça se dit déjà, il y a une réécriture de la géographie. On ne dit pas maintenant Mayotte, on dit l'archipel de Mayotte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc Mayotte appartient à cet archipel, pas seulement géographiquement, mais Sur le plan culturel, c'est le même peuple, malgré ce que les gens disent. Sur le plan historique, d'abord. Sur le plan historique, je l'ai dit, ça fait des milliers d'années que ça existe, mais on a des traces dans les livres des géographes arabes qui parlent de Djuzur al-Qamar ou Djuzur al-Qumur. Et cette histoire-là, elle existe depuis donc des milliers d'années. Les géographes arabes, c'est au Moyen-Âge qui parlent déjà de cette entité qui existe des quatre îles des Comores. Et cette unité géographique, elle est pas seulement géographique, elle est une unité culturelle, c'est-à-dire que les gens sont les mêmes personnes, ont les mêmes habitudes, les mêmes us et coutumes, ils enterrent les gens de la même manière, ils font les mariages de la même manière, ce sont les mêmes gens dans les quatre îles. On dit qu'il y a un système matriarcal aux Comores, c'est une erreur. C'est une matrie locale pour l'île de Mayotte, Anjouan et Moëlie. Matrie locale, ça veut dire que quand un homme se marie, il va habiter dans la maison de la femme. Et à la Grande Comore, il y a un système qu'on appelle matrie linéaire, où la femme a un rôle très très important et où du coup... l'oncle maternel a un rôle très important. Je parle de ça, j'insiste un peu pour que vous voyez bien que cette unité qui existe et qu'il y a une unité aussi religieuse, c'est l'islam, c'est un islam particulier, c'est un islam sunnite, chaféite, un islam plutôt de bon aloi, c'est pas un islam dur, pur et dur. C'est un islam qui est proche des soufis, avec des confréries qu'on retrouve les mêmes dans les quatre îles. Donc l'unité religieuse, l'unité culturelle, l'unité géographique, l'unité historique, l'unité linguistique. On parle la même langue. Et dans les mensonges qui sont racontés, vous entendrez dire que le chi maoré, alors chi c'est un préfixe bantou qui veut dire langue de, donc chi maoré la langue de Mayotte, est une langue bantou. Le chimaoré n'est pas une langue bantou. Le chimaoré est un dialecte. Alors on dit dialecte, on dit variante, on dit parler. C'est un parler ou une variante du chikomori, la langue des Comores, que les linguistes considèrent comme langue bantou, qui se subdivise en deux, le nord, la Grande Comore et Moëlie, le sud, Anjouan et Mayotte. Donc on disait tout à l'heure que Mayotte est très proche d'Anjouan. Moi, je suis né à Anjouan, c'est 70 km. C'est-à-dire que depuis très longtemps, les gens se sont mélangés. Donc, vous voyez, Mayotte appartient à un archipel qui est l'archipel de Comores et le nom de l'archipel de Mayotte, c'est une invention. Comment est arrivée la France ? La France arrive en 1841 à Mayotte parce qu'elle s'intéresse à l'île de Madagascar qui est en concurrence avec les Anglais. À l'époque, on est en 1841. 1824, la France a perdu Maurice, qui s'appelait Île-de-France, et cherche un appui pour arriver à Madagascar. Et va s'intéresser à Mayotte. Et il y a un sultan qui s'appelle André Anzouli, qui a été battu à Madagascar, qui va arriver à Mayotte, qui va être accueilli par le sultan sur place et qui va évincer le sultan sur place, signer un accord de vente de l'île en 1841. Mais attention, c'est encore des mensonges qu'on entend, c'est que Mayotte est française avant l'Alsace et avant Nice. C'est Nice et l'Alsace, quand ils sont devenus français, les gens ont été interrogés. Alors, à l'époque, évidemment, avec les hommes qui votaient. Donc, il y a eu un vote là-bas. Et ici, c'est une vente et c'est le système colonial. Ce sont des indigènes. Alors que les gens à Nice et en Savoie devenaient français. Bref, j'essaie de faire vite, mais il faut quand même que je vous explique un certain nombre de choses, que je raconte un petit peu cette histoire-là. Donc, 1841 Mayotte, 1868, les autres îles qui vont devenir françaises. On va avoir un statut de Mayotte et dépendance au début. Ensuite, quand la France aura Madagascar, les quatre îles des Comores vont être rattachées à Madagascar. Ça s'appellera Madagascar et dépendance. Et pendant tout ce temps-là, et jusqu'à 1974, c'est à Mayotte qu'on a le chef-lieu de ces quatre îles. Les gens qui vous disent que non, Mayotte, on n'a rien à voir avec les Comores, on n'a rien à voir, on n'a jamais eu à voir avec Mayotte. Oui, sauf que avec les Comores, quand ils disaient ça de Mayotte, sauf que c'était le chef-lieu de quatre îles, c'était là-bas. Bref, et on va arriver en 58 où il y a un projet de, on va déplacer la capitale, lapsus, le chef-lieu de Mayotte à la Grande Comore. Et là, il y a sans aucune compensation économique. On a parlé à un moment donné de compensation économique de type aéroport international, port en mer profonde. Rien n'a été fait pour compenser cette perte. Et donc, il y a un mécontentement qui commence à naître. À ce mécontentement, il faut ajouter le travail qui va être fait par des créoles qui sont venus d'une part de Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est une petite île qui est à Madagascar, qui a voulu être française, qui a voulu être département. Ça n'a pas marché. Et ils ont eu d'ailleurs un statut particulier. Les gens de Sainte-Marie pouvaient devenir français plus facilement que les autres, mais ça n'a pas marché. Et ils vont venir à Mayotte. Et il y a un certain Georges Naouda, en 1958, qui va initier le premier congrès, appelé le congrès de notables, où va apparaître ce projet de départementalisation de Mayotte, le statut de département qui est recherché. Les créoles, il y en a aussi de La Réunion qui sont là et qui ont vu en 1945 comment La Réunion est devenue un département et que les terrains ont grimpé en prix, et donc c'était une affaire, ce département. Donc quand en 1974 arrive, le 22 décembre 1974 arrive le référendum ou la consultation, ça dépend du terme employé par les juristes, pour demander aux Comoriens pour l'indépendance, il y a 94,5% des Comoriens qui disent oui pour l'indépendance. On a 63% de gens à Mayotte qui ont dit non. Mais là apparaît un mouvement d'extrême droite qui s'appelle Action française, qui va pousser, manipuler, faire des lobbying pour qu'on fasse une lecture île par île de la consultation. Vous savez qu'en Algérie, quand il y a eu le référendum sur l'Algérie indépendante, il y a eu, je crois, Tlemcen et Oran qui avaient voté non. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont restés français. Hein. Bref, ça, c'était une parenthèse. Et donc, ce lobbying va être aidé aussi par un lobbying militaire. Les militaires et eux, l'Action française, ce sont des gens qui ont en mémoire l'Algérie. On est en 74, c'est pas si vieux. Ils ont en mémoire l'Indochine. Et les militaires, ils viennent de perdre Diego Suarez. Donc, les militaires vont pousser pour avoir... pour Mayotte française, et en juin 1975, donc 22 décembre 1974, juin 1975, l'Assemblée nationale française propose une consultation de la population comorienne, cette fois-ci île par île. Les Comoriens réagissent, déclarent unilatéralement l'indépendance le 6 juillet 1975, et dans la foulée, le 12 novembre 1975, l'ONU reconnaît les Comores, accueille les Comores dans les frontières des quatre îles, les frontières coloniales, avec le principe de l'intangibilité des frontières coloniales. C'est ce que je vous expliquais sur l'Algérie. Donc, les Comores sont reconnus dans les Nations Unies, aux Nations Unies, les quatre îles. La France est considérée violant le droit international. Elle va continuer... Alors, l'ONU va dire à la France qu'il faut qu'elle se rapproche des autorités comoriennes pour régler cette affaire de Mayotte, et dit à la France que tout référendum qui sera organisé sur l'île comorienne de Mayotte sera nul et non avenu. Et malgré ça, la France va organiser des référendums qui vont être, cette fois-ci, pas 63%, 98%, 99%, et pour devenir Mayotte en respectant pas le droit international. Et de 75 à 95, la circulation est libre quand même entre les quatre îles. Et c'est en 95 qu'il va avoir le visa Balladur, le visa meurtrier, visa qui pendant un moment, le petit bras de mer de 70 km, là, était le cimetière marin le plus mortifère, enfin, si, je ne sais pas comment dire, où il y avait le plus de morts au monde. On a installé ce visa Balladur et qu'on va prendre les gens, on va les ramener là-bas, des gens qui sont chez eux, qui ont toujours été là pendant des siècles, on va les ramener là-bas. Les quatre îles des Comores, c'était le territoire français le plus délaissé. Et ça, c'est documenté, on sait comment, sur l'éducation, sur la santé, sur les infrastructures routières et sur tout ce qui était télécommunication. Dans ces domaines-là, les Comores, c'était le dernier, y compris, évidemment, Mayotte. Mais entre 1974 et aujourd'hui, on va élever artificiellement le niveau de vie à Mayotte avec beaucoup de problèmes, énormément de problèmes de gens qui sont laissés pour compte. Mais quand même, ça fait un miroir aux Alouettes, ça fait un Eldorado qui attire les gens. Et je finis par la phrase d'un diplomate français qui s'appelle Louis de Guéringo, qui était diplomate aux Nations Unies, qui disait qu'il ne faut pas que Mayotte reste française. Je cite Giscard pour c'est la même chose, il a parlé de l'unité des Comores, mais de Guéringo disait qu'il ne faut pas que Mayotte soit française parce qu'on va créer un îlot de richesse dans un océan de pauvreté. Il pensait à Madagascar et aux Comores. Et là où il s'est trompé, c'est que ce n'est pas seulement Madagascar et les Comores qui voient maintenant ce miroir aux Alouettes, cet Eldorado, c'est aussi surtout le continent africain, les grands lacs, et ça va jusqu'en Somalie. Il y a des pays d'Asie qui sont intéressés par ça et évidemment les Comoriens des autres îles ne vont pas arrêter d'aller à Mayotte, ce qui fait que Mayotte est engorgée et dans une situation insoluble. Je vous remercie de votre attention.
Des voyous, quoi. C'est la réalité.
Solène Dia, tu as travaillé pendant 4 ans dans une asso qui accompagne les personnes dites étrangères à Mayotte dans leurs droits, le groupe local de la CIMAD. Tu vas à la fois nous parler de ton expérience de la vie associative à Mayotte et nous expliquer pourquoi ça devient très compliqué de continuer à se mobiliser. Solène, elle a une connaissance très fine du régime dérogatoire qui est en place sur l'île, et ça va nous permettre de comprendre un peu comment la France se sert de Mayotte comme un laboratoire politique du recul des droits des...
Donc moi, je m'appelle Solène Dien, j'ai travaillé à Mayotte pendant 4 ans dans une association d'accès aux droits qui s'appelle l'ACIMAD. Donc comme l'a rappelé Agathe, le but de mon intervention, c'est un petit peu d'expliquer les spécificités propres à Mayotte en termes de législation et également parler du climat assez anxiogène pour celles et ceux qui travaillent dans le sujet. Donc Mohamed l'a rappelé, on est vraiment sur un contexte colonial. Mayotte, c'est une colonie dans laquelle les personnes de nationalité comorienne sont considérées comme étrangères. C'est hyper important d'avoir ça en tête pour pouvoir comprendre derrière le fonctionnement de l'État français et les différentes dérogations qui y sont appliquées. Donc moi j'arrive à Mayotte en 2017, à l'époque je suis en charge de la formation juridique des bénévoles qui soutiennent et qui vont proposer des permanences sociales pour les personnes qui le souhaitent, sur tout ce qui va être droit au séjour, droit à la nationalité, droit d'asile. Mayotte, donc, comme l'a rappelé aussi Agathe, c'est considéré comme un laboratoire dans lequel on va expérimenter des lois, des mesures répressives, coercitives, pour après pouvoir les appliquer en France métropolitaine. Il y a un code qui s'appelle le CESEDA, qui est entré en vigueur à Mayotte à partir de 2014, qui est truffé d'exceptions pour Mayotte. Systématiquement, on va avoir une petite astérix, sauf à Mayotte. Donc je ne vais pas vous donner une liste exhaustive de toutes ces dérogations, mais pour en citer quelques-unes, la question de la circulation, elle est très importante. À Mayotte, il y a une circulation dite contrainte, dite limitée, c'est-à-dire que toutes les personnes qui détiennent un titre de séjour ne peuvent pas aller à La Réunion, ne peuvent pas aller en France ou dans les autres territoires sans avoir un visa. Donc il n'y a pas de continuité territoriale, à part pour celles et ceux qui peuvent obtenir une carte de résident, qui est une carte extrêmement compliquée à obtenir. Donc on parle de prison à ciel ouvert, dans la mesure où les gens sont en situation régulière sur le territoire, mais ne peuvent pas le quitter. Des personnes qui peuvent avoir de la famille sur les autres îles, donc La Réunion, qui peuvent aller aux Antilles, n'y peuvent pas. Il y a aussi une circulation contrainte pour les mineurs. Toutes les mineurs qui souhaitent franchir les frontières avec leurs parents doivent avoir ce qu'on appelle un DCEM. C'est un document de circulation pour les étrangers mineurs qui, à Mayotte, est extrêmement compliqué à obtenir puisque, contrairement à ce qui se passe en France, on a ajouté une condition en disant soit les enfants doivent être nés sur le territoire mahorais, soit ils doivent être rentrés avec un visa. Or, si on connaît un petit peu l'histoire de Mayotte, la circulation entre les îles, les enfants peuvent arriver parfois à l'âge de 1 an et rester jusqu'à leurs 18 ans sur le territoire sans jamais obtenir de documents. Donc ça contraint vraiment les personnes à rester sur l'île, à les bloquer sur un territoire où ils vont être victimes de la pire répression qui soit. Sur aussi la question des droits sociaux, parce que c'est important de le savoir, à Mayotte, le RSA, il est à 50% moins élevé qu'en France. Donc pour une personne qui va toucher 600 euros en France métropolitaine, à Mayotte, elle touchera 300 euros. À Mayotte, pour obtenir le RSA, pour les personnes étrangères, il faut 15 ans de carte de séjour contre 5 ans en France. Or, avoir 15 ans continue de carte de séjour à Mayotte, c'est quasi impossible. Entre les blocages de la préfecture, l'accès impossible pour obtenir un rendez-vous, concrètement, il y a des personnes qui sont à Mayotte depuis 50, 60 ans, notamment les pêcheurs, qui n'ont jamais réussi à obtenir de carte de résident. Donc ça vous donne un peu une idée dans laquelle, encore une fois, on laisse les gens dans une situation extrêmement précaire. Il n'y a pas d'AME à Mayotte, donc c'est-à-dire l'aide médicale d'État, elle n'existe pas. Et ce n'est qu'en 2024, donc le 1er janvier, je crois, qu'il y a eu la complémentaire santé solidaire pour les personnes les plus précaires. Avant, ça n'existait pas. Ça veut dire que toute personne qui vivait en dessous du seuil de pauvreté, en l'occurrence à Mayotte, c'est 80% de la population, ne pouvait pas bénéficier d'une complémentaire santé. En plus de ça, on parlera aussi un petit peu des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, normalement, quand ils arrivent sur le territoire français, ils ont droit à une prise en charge plus ou moins globale en ce qu'elle concerne l'hébergement. Ils ont une allocation de demandeurs d'asile et un accompagnement. À Mayotte, il n'y a pas d'allocation. À Mayotte, on leur dit qu'ils ont un bon de 30 euros par mois pour se débrouiller. Et la plupart n'ont pas d'hébergement, parce qu'il n'y a pas d'hébergement d'urgence, il y a très peu de logements sociaux. Et donc, on leur dit, bon, bah voilà, vous avez 30 euros, vous vous débrouillez. Contre, bien évidemment, beaucoup plus en France, même si c'est clairement pas assez, c'est pas suffisant. Il n'empêche que, voilà, c'est important d'avoir ça en tête, parce que quand on parle de Mayotte et de la rupture d'égalité entre les différents citoyens, bah, en fait, ça en fait partie. Moi, je vais revenir sur un événement en 2018 qui a un peu cristallisé les choses et qui a notamment, enfin, qui a fait suivre plusieurs lois. En 2018, à Mayotte, il y a eu une grosse crise sociale, un gros mouvement social qui a commencé notamment en raison de problèmes de violence, de bus qui avaient été caillassés. En raison de la vie chère, du ras-le-bol des gens, du fait qu'il y a un manque de développement criant. Et donc, il va y avoir un mouvement de citoyens pour dire ben, « en fait, on en a assez ». Sauf que ce mouvement, en quelques semaines, on s'est aperçu que c'était tout de suite « c'est à cause des Comoriens ». On ne dit pas à Mayotte « c'est à cause des étrangers hein, », c'est à cause des Comoriens. Il y a une vraie xénophobie, il y a un vrai, vrai racisme qui est criant, qui est assumé aussi par l'État, par les personnes qui le disent de manière vraiment... sans aucun souci. Et la réponse de l'État à ces mouvements sociaux, c'est de dire on va expulser, on va encore plus expulser. En même pas quelques jours, il y a 400 personnes qui sont expulsées vers les Comores, donc vers l'île d'Anjouan. Et à ce moment-là, on a le gouvernement de Moroni qui dit stop. En fait, les personnes comoriennes sont chez elles à Mayotte, donc il n'y aura pas de retour. Et là, pendant 6 mois, on va avoir le blocage de la préfecture physique, un blocage physique. On va avoir des personnes qui vont aller bloquer l'accès à la préfecture pendant 6 mois, qui vont en fait dormir nuit et jour pour empêcher les personnes soit d'obtenir leur carte de séjour, soit de le renouveler. Et donc derrière, ça va bloquer des dizaines de milliers de personnes parce qu'elles ont perdu leur travail. Sans un droit au séjour, elles ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas continuer à étudier. Donc il y a plein d'étudiants qui ont été empêchés de poursuivre leurs études. Il y a des personnes qui ont été expulsées parce qu'elles n'avaient pas leur carte de séjour. Et donc la BAC qui est partout et la PAF qui sont partout arrêtent en fait dès qu'on est noir et qu'on a des tongs, parce qu'ils font très attention au niveau des chaussures que les gens portent. Si les personnes sont noires, ont des tongs, elles sont systématiquement contrôlées et systématiquement mise au CRA. Le CRA, c'est le centre de rétention administrative. C'est en gros une prison pour les sans-papiers où on met les personnes qui n'ont pas le droit pour l'État français de rester sur le territoire et on les expulse. À Mayotte, il faut savoir que 60% des placements en rétention, donc de toute la France, hein, donc ça compte également les trois centres de rétention qui sont dans les Antilles, 60% des placements en rétention sont à Mayotte. C'est un CRA qui, tous les jours, expulse à peu près 100 personnes. J'ai repris les chiffres pour 2023 pour qu'on ait une idée. C'est... Pardon. Merci. C'est 28 180 personnes qui ont été placées au CRA de Mayotte en 2023, 28 183 contre 17 000 dans tout l'Hexagone. Et en termes de personnes qui ont été expulsées, c'est 25 000 personnes contre 1 400 sur l'Hexagone. Donc ça vous donne un petit peu une idée de ce qui se passe à Mayotte, où ce sont des bus qui sont affrétés tous les jours, qui vont emmener des personnes qui ne peuvent pas exercer leurs droits. On parle de personnes qui ont vécu sur le territoire depuis des décennies, des parents d'enfants français, des jeunes qui, comme celui du film, sont nés à Mayotte, ont grandi à Mayotte et n'ont juste pas pu régulariser leur situation. Et on parle aussi beaucoup d'enfermement d'enfants. À Mayotte, tous les ans, il y a 3000 enfants à peu près qui vont être enfermés avec leurs parents ou sans leurs parents, parce qu'on est sur des pratiques complètement arbitraires. Et en janvier 2024, la loi Darmanin a interdit l'enfermement des enfants, sauf à Mayotte. À Mayotte, ça sera en vigueur qu'à partir de 2027. Donc là encore, on considère vraiment qu'on est sur un département qui n'est absolument pas un département en termes de droit. On est sur de l'infradroit où l'administration, elle encourage les collectifs d'extrême droite. Et en 2018, c'est aussi la naissance d'une célèbre députée qui s'appelle Estelle Youssoufa, qui est aujourd'hui donc députée de Mayotte et qui est en fait née pendant ce mouvement. C'est-à-dire qu'avant, personne ne la connaissait, ni d'Ève ni d'Adam, mais en 2018, elle va prendre la parole, elle va mener ce mouvement en ayant des propos xénophobes, racistes, mais à Mayotte, ça passe. À Mayotte, ça passe. Et en France, c'est passé aussi parce que c'était une femme noire. Et le fait de voir une femme noire qui avait un discours où, en fait, on disait les Comoriens sont de la merde, les Comoriens ne sont rien, et bien, en fait, c'est passé. Et aujourd'hui, elle est députée et son discours n'a absolument pas changé. On est sur systématiquement un discours extrêmement violent, extrêmement raciste, où ces collectifs, donc, comme je vous disais, sont écoutés par la préfecture, ont été reçus à plusieurs reprises. En France, on ne verrait pas une préfecture qui est bloquée pendant 6 mois. Ça paraît fou, mais à Mayotte, c'est le cas. Et ce blocage, il date de 2018, mais en 2021, la préfecture a été bloquée. En 2023, elle a été bloquée. En 2024, elle a encore été bloquée. Et donc, systématiquement, ça laisse des milliers de personnes sur le carreau, des personnes qui auraient droit à leur carte de séjour, mais en fait ne peuvent pas l'avoir. Et qui derrière, en raison des contrôles sur toute l'île, bah, se font arrêter et se font expulser. Et donc après, on a effectivement le cimetière marin dont parlait Mohammadi, où des gens meurent en fait en mer, faute de pouvoir avoir un visa, faute de pouvoir revenir sur le territoire. Donc quand on parle de Mayotte, il faut vraiment entendre, on parle d'une colonie. On parle d'une colonie où on va expérimenter, où on va essayer d'appliquer un infradroit et où l'État a un discours, encore une fois, raciste qui est complètement assumé, qui est encouragé par des collectifs d'extrême droite, qu'il reçoit, qu'il entend. En 2018, il y a aussi la loi Elan. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est la loi sur l'évolution du logement et de l'aménagement numérique qui autorise les préfets de Guyane et de Mayotte de pouvoir détruire les quartiers informels sans décision de justice. Donc normalement, le préfet est censé proposer une solution d'hébergement ou de logement aux personnes qu'ils vont expulser, sauf qu'à Mayotte, ce n'est absolument pas le cas. Et de fait, il y a eu un recours qui a été posé contre ces arrêtés de la loi Elan en 2018. Et là, la CIMAT, qui avait déjà été beaucoup prise à partie, alors que ce n'est absolument pas une association révolutionnaire ou ANAR, on parle vraiment d'une association qui dit le droit, c'est le droit, et ben, elle a été prise à partie. Il y a eu des menaces à l'encontre des bénévoles, à l'encontre des militants de la CIMAT, tout simplement. Et il y a eu également un blocage des locaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous a clairement dit « vous n'avez pas votre place ici ». Et quand on rappelait « mais si on va dans votre sens en disant que Mayotte, c'est français », bah, ça veut dire qu'il y a des droits qui doivent être respectés. Et ça, c'est absolument quelque chose qui ne peut pas être entendu là-bas. Et j'insiste là-dessus parce que quand on parle du fait qu'il n'y a pas de voix qui sortent de Mayotte, en fait, c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui essayent d'aider leurs élèves depuis Chido, qui passent dans certains quartiers et qui se font harceler, qui se font invectiver parce qu'en fait, juste, on considère qu'ils devraient être en classe de 9h à 17h et s'arrêter là. Et ces profs qui vont essayer d'aller à la rencontre de leurs élèves, de voir s'il ne manque pas de choses, mais en fait, on leur dit « mais vous n'avez pas à faire ça ». Et du coup, on devient complètement schizo dans la mesure où on leur dit bah, « en fait, votre place, elle n'est pas là ». Votre place, elle n'est pas là. Et d'avoir un discours où juste on reparle de droits des personnes, on essaye de... Je ne parle même pas de parler d'un monde de bisounours, de bienveillance. Hein. Juste, on dit, on respecte le droit tel quel, c'est pas entendable. Et donc, le peu d'associations qui sont présentes, eh ben, elles n'arrivent pas à en parler. En 2018, nous, pour avoir juste un communiqué qui dit pas d'amalgame, insécurité, immigration, on arrête les amalgames, rien que ça, il a fallu des dizaines d'heures de travail avec les associations pour qu'elles entendent. Et quand nous, la CIMAD, on s'est retrouvés tout seuls, victimes de harcèlement, victimes vraiment d'une campagne sur les réseaux sociaux qui a été absolument dégueulasse, et qu'on a prévenu les autres associations en leur disant « attention, si vous prenez pas la voix maintenant, vous verrez que ça sera vous les prochains », on nous a pas entendus. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La plupart des associations avec lesquelles on était en lien 2018, 2019, 2020, en fait, elles n'existent plus parce qu'elles ont été derrière prises à partie, leurs locaux ont été également bloqués. Et en fait, la pression est telle que pour des personnes qui veulent juste dire en fait, les personnes ont des droits, c'est compliqué.
Et Jassem Issouf, tu es président et porte-parole du collectif École pour tous. C'est un collectif de jeunes qui luttent pour l'accès de toutes et tous à la scolarité dans l'Hexagone et dans les départements d'outre-mer. Et il va nous présenter son parcours et plus précisément le collectif en détail et nous parler de l'impact du cyclone sur la situation des jeunes avec qui il est en contact depuis le cyclone et plus particulièrement les jeunes considérés comme étrangers à Mayotte.
Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis plus là pour vous faire un témoignage. Non seulement de mon vécu, mais aussi un petit peu du vécu de mon entourage et rappeler la situation notamment des jeunes après Chido à Mayotte. Donc, je m'appelle Jassem Issouf, je suis co-président et porte-parole du collectif École pour tous. Donc, le collectif École pour tous, c'est un collectif d'enfants et de jeunes issus de différentes origines, de différentes communautés. Nous sommes des enfants qui vivent en bidonville, des enfants qui vivent en hôtels sociaux, des mineurs isolés, des mineurs isolés étrangers, des mineurs non accompagnés, des jeunes issus de la communauté des gens du voyage. Nous nous sommes rencontrés et nous avons fondé le collectif autour d'un point commun qui est la précarité que nous avons vécue dans notre enfance. Et cette précarité qui a eu comme ultime conséquence d'entraver notre droit à l'école, notre droit à rêver, notre droit à rêver un meilleur avenir. Donc, depuis 2018 que le collectif École pour tous existe, nous avons réussi à arracher quelques victoires, voire même de nombreuses victoires. Solène en parlait tout à l'heure, à Mayotte, on a beaucoup une entrave forte à l'inscription des enfants à l'école. Donc j'ai un exemple parfait en tête où en fait on demande à une famille de produire 5 années d'avis d'imposition pour inscrire l'enfant à l'école. Alors que déjà avoir un avis d'imposition pour la famille à Mayotte, ça peut être très très compliqué. Donc 5, on n'en parle pas. Donc des documents ubuesques, tout ça pour entraver l'inscription de l'enfant à l'école. Donc parmi les victoires qu'on a réussi à avoir au collectif École pour tous, c'est qu'on a réussi à changer la loi en 2018. C'est inscrit dans la loi à l'école de la confiance que aujourd'hui, c'est très encadré les documents qu'on peut demander pour inscrire les enfants à l'école. Et par la suite, il y a un décret en 2020 qui va bien encadrer ça, qui dit qu'aujourd'hui, il suffit de produire pour l'enfant un acte d'état civil et un justificatif de domicile pour inscrire un enfant à l'école. Avec École pour tous, nous avons mené d'autres actions, notamment des événements au sein de l'Assemblée nationale pour interpeller des parlementaires, pour les interpeller sur la situation des jeunes, des jeunes comme des jeunes à Mayotte. Et je vous invite. Notre logo. Donc revenons un petit peu à ce que je disais donc, pour les témoignages. Donc moi je suis actuellement étudiant en magistère mathématiques, donc apparenté à une école normale supérieure et en préparation de l'agrégation en mathématiques. Si vous le voulez bien, maintenant je vais vous partager un petit peu mon histoire. Donc moi je suis né aux Comores, d'une mère française et d'un père comorien. Rien qu'à cette phrase, rappelez-vous ce que Mohamed disait tout à l'heure, la population à Mayotte, c'est un mélange. Donc ma mère s'est installée à Mayotte pour y travailler et moi je l'ai rejoint quand j'avais à peu près entre 8 et 10 ans. Pour vous dire, je ne m'en souviens même pas. Nous habitions dans un bidonville, en Petite Terre, la plus petite île de Mayotte. Donc moi j'ai grandi dans un bidonville. Dans un banga, comme on appelle ça, une case en tôle. Donc j'ai vécu sur cette île toute mon enfance, toute mon adolescence et plus important, toute ma scolarité. J'y ai beaucoup connu en termes de racisme à l'école, parce que je me souviens que lorsque j'ai eu mon brevet et que je devais rentrer au lycée, je n'ai pas eu d'affectation. Une fois que je me suis bataillé jusqu'à arriver à un bureau du rectorat, on m'a dit « Désolé, mais les places à l'école sont réservées aux habitants français de Mayotte. » Parce qu'il faut le savoir, moi, je ne suis pas né à Mayotte et je suis né comorien. Et donc, je n'ai pas la nationalité à ce moment-là. Je suis un enfant, je ne me rends même pas compte. Mais on me dit cette phrase-là que je n'oublierai jamais. Les places au lycée sont réservées aux enfants français de Mayotte. Malgré tout, je persévère et avec l'aide notamment d'une assistante sociale, j'arrive à rentrer au lycée. J'ai mon baccalauréat avec mention. Là, un petit peu, les ennuis commencent. Parce que, encore une fois, je suis né aux Comores, je n'ai pas la nationalité française, j'ai vécu à Mayotte et là, maintenant, il faut que je régularise ma situation et que donc j'ai un titre de séjour qui va me permettre de poursuivre des études. Ce titre de séjour, je ne vais pas l'avoir tout de suite, parce que j'ai mon bac en 2018, et malgré toutes les démarches que je vais faire, et notamment le contexte que Solène a expliqué tout à l'heure de blocage de la préfecture, je ne vais pas réussir à avoir ce titre de séjour. Donc malgré le fait que j'étais un bon élève, que j'ai eu une bonne affectation, notamment en métropole, je ne vais pas pouvoir avoir ma rentrée scolaire. Il faut que j'attende un an, notamment avec tout le travail que la CIMAD a fait, notamment en termes d'accompagnement des jeunes étrangers de Mayotte, pour que je puisse enfin avoir le titre de séjour qui va me permettre de régulariser ma situation et éviter, comme l'a dit Solène, de me faire contrôler et de me faire placer en centre de rétention. Ce n'est pas encore fini parce que du coup, mon affectation, je l'ai en France métropolitaine. Et comme l'a dit Solène, on ne peut pas partir de Mayotte quand on a, malgré le fait qu'on est régularisé. Il faut demander un visa pour pouvoir partir de Mayotte. Donc, les démarches continuent, la persévérance continue, et fort heureusement, j'arrive quand même à avoir le visa et partir de Mayotte et continuer mes études jusqu'à aujourd'hui, ce que je vous ai présenté. Il faut savoir aussi que pendant toute ma scolarité, quand j'étais à Mayotte, j'ai beaucoup vécu dans l'angoisse de l'expulsion habitative. Parce que ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le contexte en 2018, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les décasages. C'est des groupes de personnes qui rentrent dans les villages et qui identifient les personnes qu'ils appellent donc les personnes étrangères. Donc c'est des familles, généralement, moi je vous ai dit, ma mère elle est française, donc dans notre famille, j'ai ma mère qui est française, j'ai mon beau-père qui est français, il y a moi qui ne suis pas français, ma petite sœur qui n'est pas française, et mes autres sœurs qui sont françaises. Et moi j'ai vécu dans cette angoisse-là, parce que non seulement nous on vit dans la précarité de l'habitat, mais on risque à tout moment de se faire expulser de chez nous par des gens, qui vont peut-être nous mettre à la rue, qui vont peut-être nous malmener. Donc j'ai vécu toute ma scolarité avec cette angoisse-là. Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais même à mon pire ennemi. Donc pendant Wambushu, la triste célèbre opération Wambushu, où on a pareil expulsé, contrôlé des gens, vraiment c'était toujours l'angoisse des personnes. Aujourd'hui, quand vous me parlez de Wambushu, je pense à un témoignage un petit peu familial. Je pense à Yasmina, qui est ma cousine. Yasmina, elle a 17 ans au moment de Wambushu. Elle est française, elle est née à Mayotte et elle a été expulsée chez elle. Donc pendant Wambushu, dans la journée où elle était allée à l'école, toute une partie de policiers et de gens sont venus dans le quartier. Ils ont arrêté ses parents. Donc, ses parents ont été mis en centre de rétention, ensuite expulsés de l'île. Elle est revenue de l'école. À son retour, il n'y avait ni maison, ni parents. Elle s'est retrouvée à la rue. Ses parents, comme j'ai dit, ont été mis en centre de rétention. Elle se retrouve toute seule et manque de bol, c'était la préparation des épreuves de baccalauréat qu'elle ne passera évidemment pas. Aujourd'hui, Yasmina lutte encore pour pouvoir poursuivre ses études. Le samedi 14 décembre 2019, je pense que c'est un jour qui restera tristement célèbre pour tous les habitants de Mayotte. Le cyclone Chido est passé à Mayotte. 2019, ouais, c'est la fatigue. Excusez-moi. Donc 2024, le cyclone Chido passe à Mayotte. Et c'est un cyclone, donc il n'est pas passé amicalement, mais il a tout détruit. Nous qui n'avons rien, qui n'avions pas grand-chose, nous, habitants de Mayotte, qui n'avions pas grand-chose, nous avons quand même tout perdu. Ce cyclone, qui est considéré comme le plus dévastateur à Mayotte depuis près d'un siècle, a causé nombreuses destructions sur l'île et notamment les infrastructures scolaires n'ont pas du tout été épargnées. C'est au moins une cinquantaine d'écoles primaires qui ont été détruites, tout simplement, et qui n'ont pas pu du coup réouvrir à la rentrée. Donc le cyclone y est passé en mi-décembre et la rentrée scolaire était prévue début janvier. Donc forcément, ces écoles-là qui étaient détruites n'ont pas pu réouvrir après la catastrophe. Ensuite, la rentrée va être décalée de 2 fois. Donc la rentrée finalement n'aura lieu que fin janvier, début février. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette rentrée se fait de manière très, très progressive, avec de nombreuses classes qui ne sont pas ouvertes. Pour vous donner un exemple de la commune dans laquelle moi j'ai grandi, qui s'appelle l'Abattoir, il y a 8 écoles primaires à l'Abattoir, et à la rentrée, il n'y en a que 5 qui ont complètement ouvert, dont 2 qui ont été totalement détruites, et qui, elles, on sait que, par exemple, ne réouvriront pas du tout cette année. Il faut savoir que, déjà, ces 8 écoles ne suffisaient pas à scolariser correctement les enfants de la commune. Notamment, il y a des situations de rotation scolaire, donc pour permettre à un maximum d'enfants d'être à l'école, mais qui empêchent les enfants d'apprendre convenablement. Et aujourd'hui, sur ces 5 établissements qui ont pu réouvrir, les conditions d'accueil sont très dégradées et les effectifs sont très restreints. J'aimerais vous partager les mots d'une amie institutrice qui me confie ceci. Dans mon école, nous n'avons plus de cuisinière pour préparer un déjeuner aux petits. Ils avaient l'habitude de manger correctement à midi. D'ailleurs, pour beaucoup, c'était les seuls moments où ils pouvaient manger à leur faim. Aujourd'hui, on leur donne des biscuits, du pain et un yaourt. Parfois, je les vois pleurer. Cette situation, elle est vraiment typique à Mayotte. Et ce témoignage n'est pas un cas particulier. C'est vraiment la réalité que vivent les enfants et aussi les enseignants qui sont à l'école. C'est le quotidien des enfants précaires à Mayotte qui ont un accès où l'accès à une éducation de qualité est entravé, et le manque de matériel pédagogique et les conditions par le manque de matériel pédagogique.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse. Donc, bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OC Libertaire.